Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Dominique Vivant-Denon, né en 1747, mort en 1825, fondateur du musée du Louvre, directeur général des Beaux-Arts pendant plus de 15 ans, il a traversé tous les règnes de Louis XV à la Restauration et a fini ses jours paisiblement dans son hôtel particulier du Quai Voltaire au milieu de ses collections d'œuvres d'art. Il n'est guère connu de nos jours que par le pavillon du musée du Louvre qui porte son nom. Pourtant, cet homme extraordinairement talentueux mérite ô combien d'être connu. Dessinateur, graveur, écrivain, espion, aventurier, séducteur, il a voyagé dans toute l'Europe, a suivi Bonaparte en Égypte, écumé les musées européens pour constituer les collections du musée du Louvre. Bref, un homme aux mille vies et aux mille visages. Suivez-moi dans une évocation en deux parties de la vie passionnante et trépidante de Dominique Vivant-Denon, que le grand Goethe surnomma « l'œil de Napoléon ». Première partie, au service de Sa Majesté. Nous sommes en Bourgogne, en 1765, dans les dernières années du règne du roi Louis XV. Ce jour-là, deux cavaliers partis à l'aube du château de Germolles, près de Givry, parviennent au relais de poste de Chalon-sur-Saône, après avoir chevauché tout le matin entre Prés et Vignes. Ils sont là pour prendre la patache pour Paris. La patache, c'est une diligence. Le plus âgé des deux voyageurs est l'abbé Buisson, précepteur du second, le jeune Dominique Vivant-Denon, âgé de tout juste 18 ans. Ses parents l'envoient à la capitale pour y faire son droit et ont souhaité que son précepteur l'accompagne. On s'installe dans la diligence avec armes et bagages. Il n'y a plus qu'à s'armer de patience, à se laisser balloter sur les mauvaises routes. De Chalon à Paris, il faut bien 5 jours de voyage. Ce jeune homme qui quitte sa Bourgogne natale pour Paris est donc Dominique Vivant-Denon. Il a vu le jour en janvier 1747 dans une belle et grande bâtisse, le château de Germolles, et il appartient à une famille aristocratique de la noblesse de robe. Son père a confié son instruction à un certain abbé Buisson, à charge pour lui de faire faire à Dominique ses humanités, d'en faire ce que l'on appelle alors un honnête homme. Le jeune Dominique est travailleur, apprend vite, mais manifeste surtout un goût et un talent particulier pour le dessin. Il est très observateur, a un vrai coup d'œil et la main très sûre. Avant que ses parents ne l'envoient à Paris, il a commencé à étudier le dessin à Lyon. À quoi ressemble ce jeune homme ?
Une physionomie somme toute assez banale. Le front large, un nez à l'arête sinueuse, aux narines accusées, un menton en galoche qu'accentuent des lèvres charnues, des pommettes saillantes encadrant des yeux noirs allongés. On tient généralement qu'il ressemble à Voltaire. Ils ont en commun ce je ne sais quoi de malicieux dans le regard et dans le sourire que l'on craint tant et qui plaît tant aussi.
Parvenu à Paris, nanti de son chaperon d'abbé, de recommandations et d'argent, Dominique suit mollement des cours de droit, car décidément, il se confirme qu'il est plutôt fait pour les beaux-arts. Il rencontre d'ailleurs deux hommes qui vont le conforter dans ce choix. Boucher, maître de la peinture galante, peintre de Madame de Pompadour, et Caylus, petit-fils du poète Agrippa d'Aubigné, collectionneur raffiné qui a voyagé en Italie et à Constantinople. De son côté, Denon perfectionne sa technique de la gravure pour devenir un maître de l'eau forte. L'eau forte, c'est une gravure à l'aide d'un acide sur une plaque métallique. Toutefois, il est alors impossible de faire son chemin comme artiste sans avoir rencontré le roi. Alors Denon décide de se poster tous les jours dans la Galerie des Glaces à Versailles sur le passage du roi Louis XV et de soutenir son regard jusqu'à ce que le roi le remarque. et cela finit par arriver.
Qu'est-ce qui vous amène ici ?
Le bonheur de vous voir, sire.
Dans un temps où l'esprit fait tout, la saillie de Denon amuse le roi. Il se trouve par ailleurs que la marquise de Pompadour vient de mourir en lui léguant sa collection de pierres gravées. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Et voilà Vivant Denon, propulsé du jour au lendemain dans le trésor de la Pompadour. Il devient gentilhomme ordinaire du roi, ce que l'on désigne alors par le vocable GODR. Une charge qui n'ouvre pas toutes les portes, mais qui a au moins le mérite d'être assortie d'une pension. En cette fin de XVIIIe siècle, les arts décoratifs connaissent un véritable âge d'or. À la cour, Denon découvre, observe peintures, ébénisterie d'ébène, de bois de rose et d'acajou, grands surtout de tables réalisées par des maîtres bronziers, porcelaine, tapisserie. Il forme son goût et dans le registre de sa spécialité se fait une réputation dans les portraits de femmes. En 1772, tandis que le roi Louis XV vieillit, il a 62 ans, Denon, lui, n'en a que 25. Et comme tout artiste, il voudrait voyager à l'étranger. L'Italie, les Flandres, dont les peintres sont si réputés. Il voyagera, oui, mais ce sera la Russie. Et comme la diplomatie a besoin de talent, il est nommé gentilhomme d'ambassade à Saint-Pétersbourg auprès de l'impératrice Catherine II. Qu'attend-on de lui au juste ? Eh bien, n'est-il pas beau garçon, beau parleur, cultivé, spirituel et capable de brosser à main levée le portrait d'une jolie dame ?
Ses dispositions naturelles l'ont rendu maître dans l'art d'être agréable, de briller en société, d'avoir de la prestance, des gestes aisés, un maintien élégant mais sans ostentation. Habile de son corps et physiquement adroit, il apprécie la musique, est bon danseur et heureux au jeu, et présente un visage détendu, souriant, sans jamais infliger le spectacle d'une quelconque mauvaise humeur.
Avec tout cela, il plaît aux femmes. Qu'il mette donc en œuvre ses talents pour glaner des indiscrétions autour de l'alcôve si fréquentée de la grande Catherine. Fin 1772, le petit graveur de Chalon-sur-Saône, de GODR, devient donc honorable correspondant de Sa Majesté le roi Louis XV auprès de l'impératrice de toutes les Russies. En chemin pour Saint-Pétersbourg, Vivant Denon passe par Potsdam, où il visite sans souci le château du roi de Prusse Frédéric II. Il arrive à Saint-Pétersbourg, où il est introduit à la cour de la tsarine, dont il commence à fréquenter les dames de compagnie. Il va, il vient, il trouve où employer son corps. Il fournit à la France des renseignements sur la Suède. Il faut éviter qu'elle ne se rapproche trop de la Russie. Des renseignements aussi sur la Pologne, sur la position de la Russie face à l'Empire ottoman, etc., etc. À Saint-Pétersbourg, il rencontre Diderot, qui a négocié pour les Russes la vente d'une des plus importantes collections françaises de peinture. C'est sans doute ce qui commence à mettre la puce à l'oreille à Denon quant à la possibilité d'aller constituer des collections en se procurant des œuvres à droite et à gauche dans l'Europe entière. Mais il est surtout chargé d'influencer Diderot, qui a la confiance de Catherine II, pour que celui-ci lui dise du bien de son pays. Comme espion, Denon ne se débrouille pas si mal. C'est un observateur hors pair. Il est discret et s'intéresse à tout, note tout. Quand Diderot rentre en France, il lui confie des documents secrets de sa main, notamment une carte de la mer Noire où figurent toutes les forteresses russes. Après 2 ans de séjour, Denon finit pourtant par être expulsé de Russie pour avoir tenté d'en faire fuir une comédienne française plus ou moins espionne. Après la Russie, Vivant Denon voyage en Suède, puis en Suisse, peut-être pour une mission diplomatique secrète auprès des cantons suisses, ou simplement mû par l'envie de rencontrer Voltaire, qu'il admire avec passion. Il se rend donc au début de l'été 1775 à Ferney, où réside le patriarche des Lumières. Voltaire a 81 ans, Denon 28. La rencontre se déroule très bien, mais aussitôt rentré à Paris, Denon met en vente des portraits de Voltaire, mais surtout une aquarelle très désobligeante. On y voit Voltaire dans son lit, son bonnet de nuit sur la tête, le visage grimaçant, qui tient par la main sa grosse nièce Madame Denis. Denon admire sincèrement Voltaire, mais il n'a pas su renoncer à ce moyen de se faire un peu d'argent, y compris aux dépens de la réputation du philosophe. Voltaire ne le lui pardonnera pas. Entre-temps, Louis XVI a succédé à Louis XV, mort en 1774. Vergennes est le nouveau ministre des Affaires étrangères et il apprécie Denon. En attendant que ce puissant protecteur ne lui assigne quelques missions secrètes, Denon reprend la plume, reprend, parce qu'en arrivant à Paris des années auparavant, il avait déjà produit une pièce de théâtre calamiteuse, mais cette fois, il produit un véritable chef-d'œuvre, Point de lendemain, joyau de la littérature érotique de 35 pages, publié en juin 1777. Cependant, pour Denon, même si ce récit libertin en dit assez long sur ses talents de séducteur et d'amoureux, la véritable aventure est ailleurs que dans les livres. Et la revoici. Fin 1777, Vergennes l'envoie à Naples en qualité de conseiller d'ambassade chargé d'affaires. En réalité, il doit informer Versailles sur les faits et gestes du royaume des deux Siciles. Toutes les puissances navales européennes s'y retrouvent. La France y voit une base précieuse pour pouvoir protéger les navires marchands contre les pirates barbaresques d'Alger ou de Tunis. Les Anglais y sont également représentés, en la personne de leur ambassadeur, Lord Hamilton, qui est nanti d'une épouse à la beauté éblouissante, intime de la reine de Naples, une femme qui envoûtera bientôt un jeune capitaine promis à un brillant avenir, un certain Nelson. Eh bien, durant ces temps, Denon va évoluer dans ce contexte.
Tantôt homme de cour, tantôt voyageur, le plus souvent amateur d'art, ces différentes étiquettes vont lui servir de couverture.
Naples le déçoit, mais par chance, c'est l'époque où ont lieu les fouilles d'Herculanum et de Pompéi. Denon est pétri d'humanité gréco-latine et grand érudit d'histoire de l'Antiquité. Il maîtrise le latin, bien entendu, mais aussi le grec. Les vases grecs que l'on appelle étrusques sont alors très recherchés par quelques amateurs avertis. Denon en constitue une collection éblouissante qu'il vendra à Louis XVI. On peut d'ailleurs les voir de nos jours à la manufacture de Sèvres. Puisqu'il s'ennuie à Naples, dont la reine Marie-Caroline ne l'apprécie pas du tout, Denon sollicite un congé pour visiter la Sicile de fond en comble. Il y part le 2 mai 1778. Ce long séjour donnera lieu à l'ouvrage intitulé « Voyage en Sicile », une description fidèle des sites, des monuments et des coutumes qu'il brosse en féru d'architecture antique et archéologue averti. Il passe aussi de siciliennes en siciliennes, dans les chaudes soirées palermitaines où tout le monde, écrit-il,
se confond, se perd, se cherche et se retrouve.
Partout où il passe, il fait des conquêtes. Mais Denon n'est pas qu'un galant en quête d'aventures amoureuses.
Habité par une passion ardente de découvrir, mesurer, dessiner, interpréter les merveilles archéologiques de la Sicile, il apparaît à 31 ans comme un véritable sportif. Il monte à cheval des journées entières, se fait descendre dans les grottes au bout d'une corde, ou à l'inverse, se fait hisser en haut des temples quand l'échelle ne suffit plus. Un flambeau à la main, au mépris de possibles éboulements, il rampe dans de noirs souterrains, parfois inconnus des habitants, et nage dans l'eau glacée des citernes antiques. Quant aux 3200 mètres de l'Etna, il les gravit de nuit, et malgré l'avertissement du guide, il veut voir. Il s'approche du sommet, suffoque sous l'effet de vapeurs sulfureuses et se jette à terre pour ne pas périr.
Il dessine également tout ce qu'il voit des heures durant. Sculptures grecques, vases, lampes antiques, mosaïques, minéraux volcaniques, poissons et végétaux. De la Sicile, il passe à Malte, où il va admirer dans la cathédrale Saint-Jean un tableau de Caravage.
Dès lors, je consacrais tous mes soins et le fruit de mes économies à faire des acquisitions d'objets d'art. Je ne me proposais d'autre but que celui de satisfaire mon goût, d'autre plan d'économie que de n'acheter que de belles choses. J'ai toujours pensé que c'était l'acquisition des choses médiocres qui ruinait l'acquéreur.
Denon doit attendre l'arrivée à Naples de son successeur, un certain Talleyrand, qui ne se présente qu'en 1785. Denon, lui, se voit remercié de ses services par le roi de France par l'attribution d'une rente. Il peut alors prendre congé de la reine de Naples, qui lui offre une boîte précieuse et une bague sertie de diamants. Denon a 38 ans et il se trouve dans une situation merveilleuse. Il dispose d'importants revenus familiaux. Son père ayant disparu peu de temps auparavant, il reçoit notamment les revenus de vignes en Bourgogne. Et il reçoit une rente royale. Le voilà libre comme l'air, libre de mener comme bon lui semble sa carrière de graveur, dessinateur, collectionneur. Déjà admis à l'Académie de dessin de Florence, il entre en 1787 à l'Académie royale de peinture et sculpture en qualité de graveur et artiste de divers talents. Dominique Vivant Denon a donc déjà tout essayé, tout goûté, voyagé partout, possédé toutes les femmes, des Russes aux Palermitaines, des Françaises aux Suédoises. Mais une chose, une seule, manque encore à sa vie, l'amour. Et c'est à Venise qu'il va le rencontrer, en la personne d'une jeune beauté surnommée Bettine, qui sera éternellement sa Bettine. Vous en saurez plus dans la seconde partie de cet épisode.